Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1.
Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On est encore ensemble pendant 2 heures sur Europe 1 et 1 heure, bien évidemment, sur CNews pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Actualité largement dominée, vous le savez, par ce déplacement exceptionnel du président Macron en Ukraine. Le président français qui était attendu depuis très longtemps sur place. Il est tout d'abord allé ce matin en banlieue de Kiev, à Irpin. Et puis après, il s'est rendu au palais présidentiel avec son homologue italien, allemand et roumain en compagnie du président Zelensky. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, et cela jusqu'à la victoire, a notamment dit Emmanuel Macron. On va débriefer de cette journée. A-t-elle été efficace? A-t-elle été surtout utile? Avec Karim Zerebi, qui est consultant CNews, avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Bruno Clermont, général de Corps aérien, et avec Gilles Mintré, qui est ancien diplomate à Moscou. On va écouter sans plus tarder. Bonsoir, messieurs. Eh bien, le président Macron qui nous parle de cette aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine.
Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée. Tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons, il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être.
6 Césars de plus, l'annonce du président Macron il y a quelques minutes depuis Kiev pour cette conférence de presse. Général Clermont, vous dites que c'est conséquent ou que c'est homéopathique?
Disons que ça reste quand même des quantités. Alors, je ne vais pas dire du mal du César, c'est un excellent canon et évidemment, il va être très utile aux Ukrainiens, comme les canons américains sont très utiles. Mais on est de l'ordre en total de tout ce qui a été livré depuis 3 mois en matière de canons, par exemple. On est entre 200-250 du côté russe, et c'est entre 1500 et 2000 qu'ils ont pièces d'artillerie. Donc le combat est extrêmement inégal en matière d'artillerie. Il est inégal dans d'autres domaines. Il est inégal en matière d'aviation et de bombardement. Il est inégal en matière de chars. Donc on arrive dans une situation dans laquelle ils ont absolument besoin d'équipements militaires de la part des Occidentaux, mais les Occidentaux ont du mal à fournir des équipements militaires pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. En particulier en Europe, on voit bien qu'on n'a pas vraiment des armées extrêmement solides avec des masses importantes de matériel. Donc tout ce qui est prélevé sur les ressources militaires. Et la deuxième difficulté...
Mon général, à la question « est-ce que les annonces sont à la hauteur ?», vous me répondez « on fait ce qu'on peut ?»
On fait ce qu'on peut. On fait le maximum. Je pense qu'on fait le maximum. La question, est-ce que le maximum sera suffisant? Voilà la vraie question à se poser. Mais on fait le maximum. Le deuxième point qui est important, mais je pense qu'il faut que les gens l'aient en tête, c'est que la fabrication d'un César, ça prend 2 ans. L'armée française en a 76. On en donne 12 à l'Ukraine, il en reste 64. Il y a 64 Césars pour 6 régiments, plus 2 détachements à l'extérieur.
12 plus 6, hein. On en donne 18 hein, pour le coup. Hein.
Alors, plus 6. Alors, sur les chiffres, il y en a eu 6. Au départ, il y en a 6 qui sont arrivés, il y en a 6 qui vont arriver derrière. Donc effectivement, ça va faire 18. Ouais. Donc là, et je rappelle par exemple également que la Lituanie vient de commander 18 Césars. Ouais. Et la Lituanie dit les Césars, moi je les veux maintenant, hein. Ouais. Je ne les veux pas dans 4 ans. Donc dans la chaîne de production, on va fabriquer des Césars, puis on va servir aux fonctions des priorités, ceux qui en ont plus ou moins besoin.
C'est un groupe industriel français, il faut le dire.
Alors c'est Nexter qui fabrique, c'est un matériel 100% français, fabriqué à Bourges et à Rouen par Nexter, c'est un excellent canon, et bien sûr qu'il est utile aux Ukrainiens, mais là vraiment la question, pour eux comme pour nous, c'est celle de la quantité. Ils ont besoin d'une très grande quantité d'armes, et surtout d'une très grande quantité de munitions, parce que les munitions qu'ils utilisent actuellement, ce sont du matériel russe, anciennement soviétique, ce sont des calibres qui n'existent pas dans l'OTAN. La force de l'OTAN, c'est que tous les canons de tous les pays de l'OTAN tirent la même munition. Donc il y a une interopérabilité, il y a la capacité pour les canons français de tirer des obus anglais, donc ça fait quand même une masse importante.
C'est quoi, 155, c'est ça ?
Alors c'est du 155, en tout cas pour l'artillerie lourde du côté de l'OTAN, et c'est du 152 mm côté ex-soviétique et côté russe. Et ces munitions-là, elles sont fabriquées en Russie. Donc on ne va pas demander aux Russes de la donner aux Ukrainiens.
Gilles Mintré, donc 18 canons César. On rajoute à ça cette annonce effectivement du président Macron, la France qui a décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut absolument lutter, dit-il, contre toute forme d'impunité. C'est César, ce laboratoire mobile. Vous me dites que c'est déjà ça ou on est loin du compte concernant l'aide militaire à l'Ukraine?
On l'a dit, on voit bien la différence entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté les Européens. On fournit beaucoup moins, on fournit effectivement à hauteur de ce qu'a été la
on fournit moins et moins vite.
Moins et moins vite. Alors moins vite, je ne sais pas, parce que les problèmes de logistique effectivement ont été anticipés bien avant par les Américains qui avaient fait des réunions spécifiques sur le sujet pour qu'il y ait une coordination logistique. Mais on pâtit de ce qu'a été la baisse des budgets militaires dans l'ensemble des pays européens depuis plus d'une décennie. Donc on ne peut livrer que ce qu'on a. C'est bien pour ça d'ailleurs que les quatre dirigeants européens sont venus surtout annoncer, on y reviendra dans un instant, la candidature à l'Union européenne, parce que c'est ça qu'ils avaient annoncé. Il y a un tel décalage avec la capacité de fourniture des Américains que évidemment, on souffre de la comparaison. Quand on entend Emmanuel Macron parler de 2 millions, d'ailleurs, je note qu'il dit 2 millions de dollars d'aide française au moment où il vient annoncer l'entrée dans l'Union européenne, on aurait aimé le chiffre en euros. Mais enfin bon, on voit bien que ça ne se compare pas du tout, évidemment, avec les montants annoncés par les Américains.
Karim Zeribi, est-ce que l'Union européenne est confrontée, et la France en particulier, confrontée à ses limites sur ce dossier ukrainien aujourd'hui, en cette journée, cette visite historique à Kiev?
On est confronté surtout à un principe de réalité. Nous n'avons pas de défense européenne. Je veux dire, la réalité, elle est là. C'est que le seul pays qui est doté véritablement d'une puissance militaire à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la France. Il y avait la Grande-Bretagne avant le Brexit. Mais aujourd'hui, donc la puissance militaire européenne est incarnée par la France. Or, cette guerre, un peu comme la Covid sur les questions de santé et de recherche médicale, met l'accent et met le doigt sur une absence d'Europe politique, au sens noble du terme, qui aurait dû construire au sein de notre continent une défense européenne, nonobstant notre participation au sein de l'OTAN, mais nous aurions dû travailler collectivement avec les États-nations de l'Union européenne à une force, à une puissance militaire européenne. Ça n'a pas été le cas.
Et donc là. Et ça va se mettre en place ou pas? Parce que ça fait quand même 3 mois que la guerre a commencé.
Mais encore une fois, moi, je vois toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont faites sur l'Europe politique qui n'existe pas. On va effectivement travailler cette forme d'indépendance énergétique qui n'existe pas. On va travailler l'Europe puissance économique pour être en capacité de lutter dans le monde multipolaire dans lequel on est. On va travailler sur une Europe militaire. Oui, d'accord, on va. Mm-hmm. Ouais, ça fait 70 ans qu'on a fait l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit bien effectivement les insatisfactions que nous avons en tant que peuple européen les uns les autres, parce qu'on aimerait avoir une Europe puissance. On aimerait avoir une Europe politique. On aimerait avoir une Europe qui puisse être force de pression aujourd'hui sur Poutine et le peuple et la Russie. Ça n'est pas le cas.
Général.
On peut parler de l'Europe de la défense, de ses échecs, de ses perspectives, mais là, la situation, c'est l'armement. Il faut de l'armement. Les Ukrainiens, ils ne demandent qu'une chose depuis le début. Nous voulons de l'armement. Ils ont évalué la quantité d'armement qu'ils ont reçu, un très bon armement occidental, à 10% de leurs besoins. Et je pense qu'ils ont raison. Donc il leur manque 90%. Où est-ce qu'on va trouver les 90% qui manquent? Alors, pas en Europe, parce qu'effectivement, nos stocks de munitions sont très limités, notre capacité de production est extrêmement limitée, parce que notre industrie d'armement tourne au ralenti, en mode survie, depuis que les budgets de défense se sont effondrés.
Général Clermont, Gilles Mintré.
Tous les codes de guerre du président Macron.
Général Clermont, Gilles Mintré, Alexandre Devecchio, Karim Zeribi pour ce punchline exceptionnel. Vous restez avec nous. On continue à débriefer de cette journée, de cette visite d'Emmanuel Macron à Kiev. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer.
Allez, de retour dans Punchline, merci encore de votre fidélité sur CNews et sur Europe 1 à 18h passé de 14 minutes, toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Gilles Mintré, qui est ancien diplomate à Moscou, et le général Clermont, qui est général de corps aérien. Cette image, à présent, je le dis pour les téléspectateurs de CNews et d'Europe1.fr, qui fera assurément date en ce jeudi, Volodymyr Zelensky, qui accueille Emmanuel Macron à Kiev, le président français, vous le voyez, accompagné de Olaf Scholz, de Mario Draghi, le président roumain est également de la partie, un quartet européen en temps de guerre, et peut-être l'occasion pour Emmanuel Macron de clarifier certaines positions. Il avait notamment dit, vous vous en souvenez, qu'il ne fallait surtout pas humilier les Russes. Écoutez-le.
Nous sommes côte à côte aujourd'hui avec le chancelier Scholz. Il y a 100 ans, on se faisait la guerre. Des alliés ont aidé la France à gagner. La France a fait une faute historique. Elle a perdu la paix parce qu'elle a voulu humilier l'Allemagne. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir, pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'aie expliqué à un Ukrainien ou une Ukrainienne, il ne faut pas humilier la Russie. La Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ça n'est pas le moment, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres ont fait par le passé.
Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ce déplacement a-t-il eu au moins le mérite, en tout cas concernant Emmanuel Macron, d'apaiser un peu les tensions avec Volodymyr Zelensky? Enfin, je ne sais pas s'il y avait vraiment des tensions, mais en tout cas, il y a des mots qui n'ont clairement pas plu en Ukraine.
Alors, replaçons les choses. D'abord, c'est une visite historique. C'est véritablement historique. Nous avons quatre dirigeants, dont quand même les trois principaux dirigeants européens par taille de population / PIB.
Les trois pays fondateurs. Italie, fondateurs, Allemagne, donc, France, voilà, incroyable,
de l'Union européenne. Le cœur de l'Europe, ouais. Voilà, qu'elle s'est construite, le cœur de l'Europe est venu à Kiev dire « Vous serez candidat à l'Union européenne, vous faites partie de la famille européenne, nous vous donnons le statut de candidat. » Ça a évidemment bien trop tardé. Ça arrive à un moment où on ne l'espérait plus. On sait que la Commission prépare son rapport, qui sera probablement positif, qu'il y aura une discussion la semaine prochaine. Mais plutôt qu'on avoir fait une discussion technique lors d'un sommet le 23-24 avril, ils ont choisi d'en faire quelque chose de politique, de dire oui, vous serez candidat. Évidemment que ça va prendre le temps que ça va prendre. On sait que ça a pris 10 ans quand il s'agit d'intégrer la Pologne, la Hongrie, les autres pays d'Europe centrale et orientale. Peut-être que ça prendra encore plus de temps pour l'Ukraine. Parce qu'il y a d'abord qu'il va falloir reconstruire l'Ukraine. Et ensuite, déjà, même avant le conflit, il y avait des difficultés profondes en Ukraine sur la corruption, sur l'état de droit, etc. Bon. Mais il fallait le dire parce que, d'une part, c'est notre rôle européen, c'est notre contribution dans ce conflit, c'est la raison d'être de notre soutien. Mais aussi parce que ça va permettre de tracer une perspective de sortie à un moment de ce conflit. On ne parle pas de maintenant. Mais lorsqu'il va falloir discuter, négocier, parce que tout...
Et la réponse est dans la question.
Mais non, il va falloir à un moment, quand les armes se tairont, il va falloir négocier. On le sait, toute guerre se termine par une paix. Et cette paix va passer par des compromis. C'est juste la réalité. Ces compromis pourront être acceptés par les Ukrainiens parce que précisément, on aura tracé une perspective d'espoir qui est la perspective européenne.
On va écouter Emmanuel Macron justement sur cette... candidature immédiate soutenue par les quatre leaders européens qui étaient présents aujourd'hui. Écoutez-le.
Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Alexandre Devecchio du Figaro, je sais que ce sont vos thématiques préférées, hein, un soutien, une feuille de route et une candidature immédiate qui peut durer 10 à 15 ans ?
Oui, 10 à 15 ans, et jamais parfois aboutir, je me souviens des discussions sur la Turquie. Mais surtout, d'abord je note une chose, c'est que Emmanuel Macron a changé d'avis. Sans d'ailleurs annoncer au peuple français d'abord qu'il avait changé d'avis. Pourquoi a-t-il changé d'avis ? On est entre deux tours de l'élection législative. Alors j'espère que ce n'est qu'une hypothèse, mais du coup on peut se poser légitimement la question. Il avait besoin de retrouver une position institutionnelle, d'avoir une belle image en Ukraine. Et c'est un peu léger. Si c'est ça, ça veut dire qu'il prend une décision majeure en fonction d'intérêts politiques conjoncturels. Ensuite, c'est une décision importante parce que c'est la poursuite, moi je trouve, de la fuite en avant de l'Union européenne, excusez-moi, dans le n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a un machin, on ne sait pas très bien quelles sont les frontières, on ne sait pas très bien quelle est son identité, quel est son but. C'est totalement impuissant parce que ça n'aidera en rien l'Ukraine. Donc on aurait pu penser que cette crise ukrainienne permette à l'Europe de se redéfinir, de dire voilà quels sont nos objectifs, est-ce qu'on veut une Europe puissante, est-ce qu'on veut une Europe des nations souveraines, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre identité profonde, jusqu'où ça s'arrête l'Europe, est-ce que c'est juste la démocratie à ce moment-là, pourquoi pas intégrer les États-Unis d'Amérique.
Vous dites que ce déplacement aujourd'hui avec tous ces chefs d'État, ça n'a pas changé les choses, on n'a pas avancé.
Je ne sais pas quel est le but de l'Europe, si ce n'est intégrer au nom de la démocratie, mais à ce moment-là, je vous le répète, pourquoi pas l'Arménie ? L'Arménie qui a été attaquée par la Turquie. Pourquoi pas tous les pays qui sont en guerre et qui demandent de l'aide à l'Union européenne ? Et je pense que ce n'est pas en élargissant comme ça, sans savoir qui nous sommes, qu'un jour on pèsera vraiment sur le destin du continent.
On ne pèse pas du tout. Qui ne voit pas la tête de Gilles Mintré, mais qui est la tête de Gilles Mintré qui est totalement
défaite. On fait de la communication stratégique peut-être pour montrer qu'on existe, mais il aurait été préférable qu'on soit capable de définir qui nous sommes et ce que nous voulons faire à horizon de 10, 20, 30, 40 ans et comment on est surtout une puissance capable de peser sur son destin et pas simplement d'envoyer quelques canons César parce que ça fait bien.
Karim Zeribi, quel est votre sentiment ? Vous me dites que c'est une visite historique, oui, une journée historique, mais pour
rien. Ma position, elle est intermédiaire à celle de Gilles Mintré, d'Alexandre de Vecchio, parce que je ne veux plus cautionner une forme d'européisme béat. C'est insupportable. L'européisme béat ne créera que des insatisfactions et des frustrations au sein des peuples européens. Il faut faire une Europe politique. Si c'est un acte qui est posé là pour aller dans ce sens, je ne dénigrerai pas effectivement l'action qui a été menée aujourd'hui. Mais je suis prudent et j'attends des preuves. J'attends des preuves au-delà d'une photographie. J'attends des preuves au-delà d'une posture politique. C'est trop facile d'avoir une posture politique, de se gausser de mots. Derrière, il faut des actes en politique. Si vous voulez que les peuples reviennent vers les urnes, il va falloir à un moment donné que le politique ne fasse pas que parler. Parler, ça doit effectivement indiquer l'action qu'on va mettre en œuvre. Si on met en œuvre une Europe de la défense, de l'indépendance énergétique. Si on travaille sur tous ces sujets pour renforcer notre continent, le rendre plus fort, au service de qui ? Je l'ai dit tout à l'heure, de nos 23 millions de PME, de nos agriculteurs, de nos artisans, des citoyennes et des citoyens, de notre jeunesse. Si on fait cette Europe-là, mais qui a une connotation politique forte, alors effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui pourra être considéré comme un acte historique. Mais on ne pourra pas qualifier d'acte historique simplement, effectivement, ce qu'on a vu là.
Ancien diplomate.
Parce que c'est pas suffisant.
Gilles.
Pas d'accord. L'Europe, ce sont des projets, depuis le début. Et c'est ça, d'ailleurs. C'est ça, une Europe politique. C'est pas des mots, c'est pas des discours. Une Europe politique, ce sont des projets dans lesquels les citoyens se retrouvent. Donc, les Européens...
Quel est le projet ?
Il y a eu, depuis le début de la Constitution européenne, des projets qui ont rendu concret l'Europe, d'accord ? De Erasmus à l'euro, à Airbus. Et aujourd'hui, on veut construire l'Europe de la défense, on veut construire la sécurité collective en Europe.
C'est quand même un peu court.
Collectif en Europe. Et cette sécurité collective en Europe, évidemment, elle passe par une Ukraine dans l'Union européenne. Et c'est ça qu'ils sont venus annoncer aujourd'hui. Bien sûr que ça voudra dire repenser complètement nos institutions, parce qu'on va devoir intégrer un pays de 40 millions d'habitants, avec en plus un pays qui va être à reconstruire. Mais une fois de plus, mieux vaut le reconstruire dans le sein de l'Union européenne que le reconstruire, parce que de toute façon, on aura à le reconstruire. Et donc, il va falloir repenser nos institutions. Mais depuis le début, l'Europe avance face à des crises. C'est quand il va falloir réfléchir ensemble pour faire autre chose,
qu'on repense.
Non, c'est pas du tout d'un élargissement comme un autre. Il s'agit de l'Ukraine. Et bien sûr qu'Emmanuel Macron a changé d'avis sur le sujet, parce qu'il a proposé quelque chose complètement à côté de la plaque au début. Il a dit on va faire une confédération politique européenne. Il a dit ça tout seul, dans un silence assourdissant en Europe. Personne pour le soutenir. On ne comprenait pas du tout. Et les Ukrainiens qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc, bien sûr, il a changé d'avis, il a compris le caractère historique du moment, qu'ont compris les autres dirigeants européens, et aujourd'hui, ils viennent le dire ensemble.
Pas convaincu, Alexandre Devecchio, du Figaro.
Non, parce que repenser, je pense que c'est le terme, mais on agit avant de repenser, on continue à élargir, c'est pour ça que je parlais de fuite en avant, sans penser quoi que ce soit. Du reste, vous parlez de défense européenne, de renforcer, moi, je pense, la défense de chacun des pays européens, parce qu'on voit, je ne crois pas du tout à encore une nouvelle institution intégrée, parce que les militaires, je pense, n'iront pas mourir pour le drapeau européen, pas forcément intégré, mais ça pourquoi pas. J'y suis favorable, je pense que pour faire une Europe puissance, c'est nécessaire, mais je ne vois pas en quoi intégrer aujourd'hui l'Ukraine va permettre de nous renforcer sur ce point. Au contraire, vous avez eu l'honnêteté de le dire, si on l'intègre, on va avoir un pays détruit, si vous voulez. Donc, On a une Europe qui est pas si bien que ça, qui est pas si forte financièrement, qui est tellement faible financièrement qu'elle s'est pas armée.
Alexandre de Vecchio, de toute façon, bien sûr qu'il y aura un plan Marshall pour l'Ukraine.
Et donc,
bien sûr
on va faire des transferts massifs. On va faire des transferts massifs d'argent à l'Ukraine au lieu de se renforcer nous. Je ne suis pas sûr que ce soit, encore une fois, très sérieux.
Alors, Alexandre Vecchio, on ne va pas laisser l'Ukraine détruite à nos portes, qui est le plus grand facteur de déstabilisation de nos propres économies et de notre propre sécurité.
Personne dit qu'il va la laisser détruite.
Donc il y aura un plan Marshall. Pour l'Ukraine.
Et donc,
il vaut bien mieux que ce plan Marshall soit à destination d'un pays qui a vocation à nous rejoindre plutôt que vocation un pays qui a vocation à rester à notre frontière.
Ensuite, d'une part, ne pas l'aider à la reconstruire et l'intégrer, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, ça a des conséquences géopolitiques quand même, hein, parce que on a fait tout ça, on en est arrivé là aussi parce que, à tort ou à raison, Vladimir Poutine pensait que l'Occident le menaçait, etc. Si demain l'Union européenne et l'Ukraine, c'est la même chose. Comment on fait en cas de reprise du conflit? Parce qu'on ne sera pas plus armé et pas plus fort. Donc on déclenche une guerre mondiale. Donc ça a quand même des conséquences très fortes. Ensuite, alors, vous dites, sur le plan de la communication, c'est bien, on existe. Ça n'a pas l'air d'impressionner.
Ça
n'impressionne pas les Russes. On a vu le tweet de Dimitri Medvedev, mais c'est pathétique. Il faudrait le repasser. Il dit qu'on est les ambassadeurs de la pizza pour les Italiens, enfin des pâtes pour les Italiens, du fromage pour les Français.
Et voilà ce que dit Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. On aimerait espérer que les dirigeants de ces trois pays ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et les projets de continuer à l'inonder en armes. C'est tout à fait futile et ne fera qu'infliger davantage de préjudice à ce pays.
Ça, c'est aussi une vraie question. On parlait des Césars tout à l'heure. J'aimerais, ça nous dépouille, donc ça montre qu'on a été très faible pour des raisons comptables, parce que l'Europe n'avait pas de projet idéologique et politique, mais par contre c'était une Europe comptable avec le dogme des 3%. Au nom de ce dogme des 3%, on n'a pas pu s'armer correctement, notamment la France. Donc moi je suis effectivement pour qu'il y ait un réarmement en Europe. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui envoyer des armes à l'Ukraine? Quelle est la finalité? Parce que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Donc c'est faire durer cette guerre inutilement pendant des années et affaiblir l'Europe. Donc
et précisément,
il faudrait faire des décisions qui apparaissent cohérentes.
Nous expliquer pourquoi on fait ça. On va voir effectivement les déclarations de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il juge futile effectivement toutes ces livraisons d'armes. Quel est votre sentiment?
Évidemment, tout ça est excessif. Le terme futile n'est pas adapté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des quantités d'armes suffisantes qui sont livrées que ces armes ne sont pas efficaces et retardent l'offensive des Russes. Les canons César, les lance-roquettes multiples, les javelines, les Mistral font des dégâts terribles dans les rangs de l'armée russe. La question, c'est qu'il en faudrait plus. Voilà.
Vous avez dit durée, tout est de la question. Si c'est juste pour faire durer ce conflit, je suis désolé, on peut se poser la question de l'intérêt. Mais je comprends que
pour permettre aux Ukrainiens de résister, je pense. Pas de gagner la guerre, là je te rejoins. Et je pense que ce que pointe le général avec cette absence en nombre d'armement militaire, de munitions autres, fait qu'on va les aider à résister. Et certainement pas à gagner. Alors, effectivement, résister, pour quel objectif final? On peut se poser la question politiquement. Donc, moi, personnellement, je regrette qu'on ait un peu fermé l'idée à un retour du dialogue. On en parle quasiment plus.
Et on en parle dans un instant.
Et je le regrette.
18h passées de 29 minutes sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes dans Punchline et c'est l'heure du rappel des titres.
Demain, il faudra réduire votre vitesse sur la route de 10 km/h si vous êtes en Île-de-France en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a demandé également de différer, si possible, les déplacements routiers en Île-de-France, de privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun, la marche ou le vélo. Une quatrième dose pour tous en Espagne. L'ensemble de la population espagnole va pouvoir recevoir probablement à partir de cet automne une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. Avec 93% de sa population de plus de 12 ans entièrement vaccinée et 53% de ses 47 millions d'habitants ayant déjà reçu la première dose de rappel, l'Espagne est l'un des champions du monde de la vaccination anti-Covid. Et puis prison à perpétuité pour deux membres du Hezbollah. Ils ont été condamnés ce jeudi pour la mort dans un attentat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Si la juge a estimé qu'ils avaient agi avec préméditation, il est cependant peu probable que les deux hommes toujours en fuite soient incarcérés.
Allez, quel bilan pour cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev, visite qui était très très attendue. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, on en parle justement, messieurs, a moqué justement cette visite d'Emmanuel Macron, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1, il est 18h passé de 30 minutes.
Europe 1. Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1.
À 18h passées de 35 minutes, la suite de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. On est en plateau avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Karim Zeribi, qui est consultant CNews, le général Bruno Clermont, général de corps aérien, et Gilles Mintré, qui est ancien diplomate du côté de Moscou. Ces mots qu'on attendait avec impatience. L'Europe est à vos côtés, le restera. Eh bien, autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire. Voilà ce qu'a déclaré il y a maintenant quelques minutes. Vous avez pu le vivre en léger différé puisque la conférence de presse a été enregistrée pour des raisons de sécurité sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Le président Macron qui a également annoncé qu'il allait livrer eh bien, 6 canons César supplémentaires hein, qui s'ajoutent aux 12 qui étaient déjà livrés par la France. Ça fait au total 18 canons César sur les 76 que dispose notre pays. La France qui a également décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut lutter contre toute forme d'impunité, a précisé le président français, qui appelle solennellement la Russie à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation de céréales, ce qui nécessite d'accepter la levée du blocus russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité aux bateaux qui circuleront justement en mer Noire dans cette zone. On va écouter à présent, le président Volodymyr Zelensky qui, lui, a clairement dit que la Russie ne voulait pas la paix. Écoutez.
Donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix, nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. La Russie ne souhaite pas la paix. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce moment même où je vous parle, au Palais Marie, au centre-ville de Kiev, les troupes russes poursuivent leurs offensives dans le Donbass. Elles se retranchent dans le sud. Le pays agresseur doit comprendre une chose. Elle n'a pas d'alternative. Seule la solution pacifique est possible. Elle doit se mettre à rechercher la voie vers cette solution. Son objectif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute l'unité européenne.
La Russie ne veut pas la paix, c'est même le contraire, général Clermont. Pour faire la paix, on le sait, il faut être deux. Là, c'est quand même mal engagé, nous dit
La Russie veut pas la paix.
Le président Zelensky.
Mais ça fait 117 jours qu'elle veut pas la paix. Non seulement elle veut pas la paix, mais comme la guerre se passe plutôt bien, elle va continuer. Hein, donc pour l'instant, on en est, je ne dis pas qu'on en est au début des combats, parce que ça fait quand même 3 mois, on est dans une phase particulière des combats.
Ça se passe plutôt bien pour les Russes, vous me dites. Aujourd'hui, la Russie a toujours du mal à décrypter. On dit que les Russes...
C'est la première fois depuis 3 mois de guerre, que les Ukrainiens sont en difficulté, dans des véritables combats d'armée à armée. La guerre d'avant, c'est une espèce de guerre ratée du côté russe, donc les Ukrainiens ont brillé dans une guerre ratée des Russes. Cette fois-ci, on a une vraie guerre armée contre armée, et malgré leurs insuffisances, les Russes ont appris de leurs erreurs, ils ont réorganisé leur groupe de bataille, ils utilisent mieux l'artillerie, ils utilisent mieux l'aviation, ils ont concentré les efforts sur le Donbass. Et 2 mois après, ça paye. Ça a mis 2 mois. On peut pas dire que c'est fulgurant, mais ça commence à payer. Donc les Ukrainiens reculent. J'insiste sur le fait que les 3 présidents, les 3 chefs d'État se rendent, les 4 avec le chef d'État roumain, se rendent dans ce pays à un moment particulier. C'est la première fois que les Ukrainiens sont en difficulté. Et d'ailleurs, le discours des Ukrainiens change quand ils sont en difficulté. Hein. Plus ils sont en difficulté, plus le président Zelensky évoque la possibilité de négociation, avec toujours des phrases un peu compliquées dont on sent qu'il veut chasser les Russes d'Ukraine, mais ça fait rien. À ce moment-là, le sujet des négociations revient, et par contre, du côté russe, le sujet des négociations disparaît.
On va en venir aux négociations dans un instant, mais justement sur cette avancée des Russes, est-ce que concrètement, mon général, aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont l'avenir, le destin des Ukrainiens en main ?
En fait, ce sont tous les pays qui fournissent de l'armement.
Donc surtout les Américains.
Les clés du succès de l'offensive, de la deuxième offensive, c'était... Il faut que les Russes apprennent de leurs erreurs de la première guerre. Ils les ont apprises, globalement, même si on a des difficultés. Il y aura la bataille de la logistique. Pour l'instant, c'est les Russes qui ont pris l'avantage de la bataille de la logistique. Et pour les Ukrainiens, ça va dépendre de la capacité des Occidentaux à fournir de l'armement. Et sur ce sujet, malgré tous les efforts qui ont été faits, on est très, très, très loin du compte. Gilles Maintré, on va rester très loin du compte.
Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, est-ce que les conditions, d'après vous, sont bientôt réunies, justement, pour négocier un cessez-le-feu ?
Non, parce que, comme c'est très bien dit par le général, évidemment, on a un jeu un peu de balancier. Au début, c'était évidemment les Ukrainiens. D'ailleurs, Zelensky a toujours été dans une position plutôt ouverte sur la négociation, sur la diplomatie. Et les Russes avançaient. Et puis, il y a eu la contre-offensive ukrainienne, le fait que les Russes se soient retirés sur le Donbass. Et là, on a commencé à entendre du Kremlin dire « Mais attendez, les Ukrainiens négocient plus, on aimerait qu'ils reviennent dans la salle de réunion. » Et puis voilà, maintenant qu'effectivement, ils reprennent dans le Donbass, on entend à nouveau les Ukrainiens faire des ouvertures. Zelensky, hein, qui redit hein, qu'il est ouvert, qu'il va falloir trouver une solution de paix. Donc, il va falloir que, pour que vraiment une négociation ait lieu, le rapport de force se stabilise d'une certaine façon. Et on pensait qu'on était proche de ça au début de l'offensive dans le Donbass et on constate que les Russes avancent. Donc mais probablement que c'est encore
Gilles Maintré,
trop
au terme
tôt,
de
malheureusement. Hein, malheureusement
au terme de cette journée avec ces quatre leaders européens qui sont aujourd'hui à Kiev pendant un moment qui est quand même crucial, vient de le rappeler le général Clermont, on dit qu'on a fait un pas de plus vers la paix ou plutôt dans l'autre sens ?
Non, clairement, un pas énorme vers la paix. On a fait un pas énorme vers la paix parce qu'il y aura... Il y aura un moment où ce rapport de force sur le terrain va peut-être se figer, se cristalliser, où il y aura la possibilité de discuter, de négocier, donc d'avoir une sortie de ce conflit qui passera nécessairement par des concessions, j'ai envie de dire de part et d'autre, mais du coup aussi des Ukrainiens. Or, Zelensky l'a dit, il n'y aura d'accord de paix que soumis à référendum des Ukrainiens. Mmh. Il est par ailleurs lui-même soumis à des oppositions internes. Hein, Zelensky, vous souvenez...
On a tendance à l'oublier, mais...
On l'oublie. Hein. Ouais. Yulia Tymoshenko, il y a encore 15 jours, a fait une conférence de presse très dure en disant qu'on n'accepterait rien, qu'il faudrait aller jusqu'au bout. Lui a toujours été beaucoup plus mesuré, Zelensky, et donc il faudra l'aider à faire accepter une solution de paix. Cette perspective européenne est la seule perspective possible de paix et une fois de plus d'espoir pour les Ukrainiens. Tout ça n'a pas été pour rien. De toute façon, évidemment, les morts auront été pour rien et ça remplacera pas les drames qui auront été subis. Mais il y aura d'un seul coup un futur qui sera possible pour l'Ukraine.
On va voir ce qui s'est passé ce matin. On a beaucoup parlé de cette conférence de presse cet après-midi qui était à Kiev. Ce matin, effectivement, les leaders européens sont arrivés dans la banlieue de Kiev et plus précisément à Irpin avec... Eh bien, une émotion qui était palpable. Je vous propose de revoir les temps forts et d'écouter ces temps forts, bien sûr, puisqu'on est également sur Europe 1 avec Reda Mrabit.
Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi en route dans un train pour Kiev. L'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à la gare.
Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpin, ville de la banlieue de Kiev, décimée après être passée durant quelques semaines sous pavillon russe. Échange avec les forces armées sur place.
Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie.
On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que, entre autres, que les Ukrainiens et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne.
Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche. S'ensuit une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les évolutions du conflit avec la Russie.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, mais il y a une autre réaction, celle de l'ancien président russe, bien évidemment, Dmitri Medvedev. Il l'a moqué, hein, cette visite d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi en Ukraine. Il les qualifie de fans de grenouilles, de saucisses et de pâtes. D'après lui, ce déplacement a zéro utilité. Il a aussi insinué qu'il s'enivrait à la Horilka, hein, c'est une vodka ukrainienne. Est-ce qu'il faut prendre Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, ses propos au sérieux ou pas du tout ?
Il y a beaucoup de propagande interne. Ce qui est navrant, c'est de voir comment Dimitri Medvedev, qui vous souvenez, à l'époque, était le visage de la modernité, de l'ouverture sur l'Europe, hein, lorsqu'il avait pris la présidence, et qui est, depuis le début du conflit, pas meilleur qu'un présentateur de Pierre Vicanal, hein, de la première chaîne russe, ou de Rassia Adin. Voilà, il tombe dans malheureusement dans l'espèce de désinformation continue auxquelles les Russes sont soumis. Si on revient sur les images, on voit que ça a été un moment fort. Alors, moi je faisais plutôt partie de ceux qui, à titre personnel, trouvaient la séquence du train ce matin.
La séquence de l'Orient Express, là.
Un peu décalée. Ouais. Vous savez, au même moment, Jean-François Copé parlait de risque du parallèle avec les années 20-30, ouais. Alors qu'ici, en France, l'extrême droite, l'extrême gauche sont parfois face à face dans certaines circonscriptions en France, comme c'était le cas dans l'Allemagne des années 20, donc face à ce danger. Évidemment, il y avait un petit côté années 20 partant là-bas. On ne savait pas, bien sûr, quel était le contenu de cette visite. Maintenant qu'on a entendu le message, qui, une fois de plus, est historique et très fort, voilà, on voit qu'on a eu aujourd'hui un moment qui est peut-être un point de bascule dans le chemin vers la paix dans ce conflit.
Zéro utilité pour Dimitri Medvedev. Karim Zeribi, c'est aussi votre sentiment au terme d'une journée qu'on a qualifiée d'historique?
Non, je ne veux pas le croire. Je pense que tout ça est très excessif. Et d'ailleurs, autant d'excès que, à mon avis, masque quand même aussi autre chose du côté des Russes. Et autre chose qui ne les met pas automatiquement, de mon point de vue, en position dominante. Encore une fois, moi je crois que notre position à nous, il était inimaginable de ne pas apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine, sur le plan moral et politique. Sur le plan militaire, il est évident que les aider à résister, et effectivement c'est lié quand même à la démarche morale et politique que je viens d'évoquer, fait durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au moins on risque d'aller à la table des négociations. Donc, et on est pris dans cet étau-là, parce qu'on ne pouvait pas ne pas apporter de soutien, et apporter un soutien tel que nous le faisons, c'est-à-dire insuffisant pour gagner la guerre, mais suffisant pour résister, fera durer le conflit. Et au plus le conflit dure, au plus on est dans ce phénomène de balancier qui a été évoqué tout à l'heure. D'un côté, on a une résistance parfois qui prend le dessus, et donc ça donne aux Ukrainiens non pas l'envie d'aller à la table des négociations, mais de dire on peut renverser la table et on peut gagner cette guerre. Et de l'autre côté, lorsque les Russes reprennent une position dominante, se disent finalement, cette marche en avant, on va la poursuivre. C'est assez compliqué d'être dans cet entre-deux, mais avions-nous le choix, nous, en tant qu'Européens, et avons-nous la clé ? C'est surtout ça aussi la question, donc pour sortir de ce conflit. Je n'ai pas le sentiment que nous possédions, nous, toutes les clés pour sortir de ce conflit.
Alexandre Devecchio et mon général, juste, je donne la parole dans un instant. Les leaders européens qui sont en Ukraine pour marquer les esprits, chacun y allait de sa petite phrase, vous l'aurez compris. Celle de Mario Draghi a retenu notre attention, je vous propose de l'écouter.
Tout, nous allons tout reconstruire. Ils ont détruit les crèches, les terrains de jeu, et tout sera reconstruit. Ils ont déjà bien commencé. Ils ont un système numérique pour que chaque endroit qui a été détruit soit remis en place. Ils savent exactement où se trouvent les sites qui doivent être reconstruits. Chaque famille a une application où elle peut décrire ce qui s'est passé et ils ont déjà bien avancé dans ce projet.
Alexandre Devecchio du Figaro, c'est pas un peu avancé, Mario Draghi?
Bon, il est là aussi pour donner un peu d'espoir.
Il y en a pour 540 milliards pour l'instant.
Puisqu'on va les intégrer, mais ça c'est une des conséquences collatérales de l'intégration, ça voudra dire qu'il faudra financer tout ça. Et là encore, ça a des conséquences pour l'Europe, et je ne suis pas sûr que s'élargir, faire des transferts massifs pour un pays qui sort de la guerre, même s'il faut les aider, ça va nous permettre d'être, nous, plus forts. Mais je voudrais redire un mot sur ce tweet de Dimitri Medvedev, parce qu'il me frappe. Je pense qu'effectivement, il y a un style qui est presque ordurier. et qui peut choquer. Et il ne s'agit pas de dire qu'il a raison. On ne s'adresse pas comme ça à d'autres chefs d'État. Mais qu'il le fasse, ça dit quand même beaucoup de choses sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne nous respecte pas du tout. Là, on présente cette réunion comme une réunion historique. Ça n'a pas l'air d'impressionner du tout les Russes qui nous marchent dessus.
Ils vont se promener, qui vont boire de la vodka.
D'une certaine manière. Donc, c'est pour ça. Opération pour dire on est aux côtés des Ukrainiens. Mais encore une fois, si on n'a pas... C'est une opération qui est menée sans que dans le rapport de force on puisse réellement peser. C'est une opération qui nous affaiblit, je trouve, au lieu de nous renforcer.
Est-ce qu'on arrive à instaurer un rapport de force, mon général, puisqu'on dit souvent que les Russes ne comprennent que ce rapport de force?
Le rapport de force, il est sur tous les terrains, il est militaire et politique. Et là, l'Union européenne envoie un signal d'unité qui est fondamental. Parce que l'Union européenne, c'est quand même compliqué de gérer les 27. Il y a des positions un peu différentes. Le sujet de la candidature de l'Ukraine, ce n'était pas facile à régler. Les trois principaux pays ont décidé de prendre une position. Il sera difficile pour les autres de ne pas s'aligner. C'est une décision de circonstance justifiée en raison de la situation en Ukraine, qui est tout à fait exceptionnelle. Je pense qu'on ne la mesure pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bombes qui tombent sur ce studio tous les jours. Mais il y a beaucoup de bombes qui tombent sur l'Ukraine. Et si les Ukrainiens ont décidé que le conflit devait durer, si les Ukrainiens ont décidé qu'ils étaient tous prêts à mourir pour libérer leur pays, je pense qu'on doit respecter cette décision en les aidant. Donc ce n'est pas notre problème, en quelque sorte, c'est leur. Le nôtre, c'est de les accompagner dans cette démarche. Le seul inconvénient qu'on peut en tirer, et effectivement, c'est, on commence à le voir dans les opinions publiques, c'est le fait que les opinions publiques commencent à avoir du mal à accepter les conséquences économiques de cette guerre. Et plus la guerre sera longue, et plus les conséquences économiques seront violentes, parce qu'il a une arme terrible, Poutine. Il a mieux que les canons, il a mieux que les chars. Il a le gaz, il a le blé, il a le pétrole, et avec ça, on se rend compte qu'il sait l'utiliser à ses avantages.
Avec Gazprom qui a justement dit encore aujourd'hui qu'après l'Italie, ce serait, je crois, que les livraisons de gaz à l'Autriche qui allaient largement et fortement diminuer. Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou.
Oui, mais je pense que la Russie ne s'attendait pas à justement que la famille européenne fasse un front uni et permette à l'Ukraine et propose à l'Ukraine d'être candidate à l'Union européenne. De même qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Suède et la Finlande, après 70 ans, viennent rejoindre l'OTAN. Et donc on voit bien quand même la défaite stratégique de Vladimir Poutine dans cette guerre, où d'un seul coup on rebat complètement les cartes européennes. Et quand on voit le tweet de Dmitri Medvedev, on voit bien que c'est une forme de fébrilité. Enfin, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc on arrive.
On prend d'un côté ou de l'autre. Hein, ça...
Non, mais je veux dire, mais pas du tout. C'est-à-dire, c'est les Russes, quand ils veulent dire les choses, ils le disent de manière très précise et très directe. Là, il ne dit rien. À part faire de la liste. Voilà, c'est du commentaire pour les médias internes, pour qu'on puisse se gosser. Mais dans le fond, il n'y a aucun message.
J'attends la déclaration de Sergueï Lavrov, qui lui est toujours très clair.
Bien sûr, mais il n'y a aucun message dans le tweet de Medvedev. C'est juste du bruit.
Il y a un décalage temporel quand même. Il ne faut pas le nier. Cette candidature qui est acceptée, ce statut de candidat qui est accepté, va nous mener, et le président l'a dit lui-même, vers une feuille de route qui va mettre en place des échanges, des discussions sur 10 ans, 15 ans. Or, la guerre est aujourd'hui et maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a ce décalage entre l'image de cette unité européenne qui est salvatrice, que je trouve intéressante. Encore une fois, si c'est l'amorce d'une Union européenne qui prend un virage politique véritablement, et pas simplement sur des projets, parce que je pense qu'il faut dépasser le cadre des projets, parce que sinon, je pense que c'est un modèle politique, civilisationnel qu'il faut qu'on bâtisse ensemble. Donc, et aujourd'hui, il ne compte pas. Si c'est ça, donc, ok, très bien, cette image, elle est historique, mais par rapport aux conséquences de la guerre qui est immédiate, l'intégration de l'Union, de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, c'est dans 10-15 ans. Je veux dire, donc il y a un décalage. Et c'est peut-être aussi sur ce décalage que cet excès est permis de la part des Russes. Parce qu'au moment où l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne, où seront Medvedev et Poutine? Certainement plus aux responsabilités comme ils y sont.
Clairement.
Donc, ils traitent le sujet aujourd'hui, et nous, on traite le sujet dans un avenir qui est celui du moyen terme. On est dans un décalage temporel.
Bon, général.
Actuellement, il y a 5 pays qui sont dans la salle d'attente comme candidats. Hein, on les connaît, l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, et en particulier un bien connu qui s'appelle la Turquie. Ça fait 25 ans qu'il est dans la salle d'attente, ça n'a pas changé grand-chose à la face du monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce geste politique, il est à la fois politique et symbolique. Il rappelle que l'Ukraine a son avenir dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que son avenir, c'est demain matin.
Hein. Bien sûr.
C'est-à-dire que le chemin va être long, mais c'était difficile dans le contexte actuel de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas prêts, on verra plus tard si on veut de vous. Je pense que la symbolique est importante et que ça, finalement, ça coûte pas tellement cher aux Européens.
Mais plus ou moins, on pouvait faire quoi de plus c'est militairement, on n'a pas la puissance. Après, économiquement, on n'a pas la puissance.
Différent.
On
avait c'est que profondément ça. Différent de la candidature de la Turquie. Hein. La candidature de la Turquie, il y a un non-dit depuis le début sur le caractère européen de la Turquie qui traverse les opinions publiques européennes. Sur l'Ukraine, on a une continuité culturelle et géographique avec des pays qui sont déjà dans l'Union européenne. Parce que si les Ukrainiens sont européens, alors est-ce que les Polonais ne sont pas non plus européens et les Roumains ne sont pas non plus européens ? Ouais. Voilà. Donc on est dans une beaucoup plus grande évidence. En plus, à un moment qui est historique, mm-hmm. et dans les conditions dans lesquelles cette candidature a été acceptée, on imagine mal que dans 2 ans, on va dire ah ben finalement, on a regardé, on va refermer la candidature. En revanche, mm-hmm. oui, bien sûr, ça va prendre très longtemps.
Alors,
ça va prendre très longtemps,
ça
va prendre au moins 10 ans.
Vous touchez un point névralgique, mais jusqu'ici, il était plus ou moins considéré que l'Ukraine était à la limite, était entre l'Europe et le monde slave. Et c'est une des raisons profondes.
Et le monde slave, il est en Europe. Ils ne sont pas slaves, les Polonais.
Les Russes sont aussi européens.
Mais non, parce que la question, c'est pas d'être slave ou de pas être slave, c'est la continuité culturelle et géographique qu'il y a.
Mais elle n'était pas si évidente.
Parce qu'en Russie, de l'autre côté de l'Oural, évidemment, on est dans une autre géographie.
Elle n'était pas si évidente. Du reste, moi, ce qui me pose problème dans cette Europe, c'est qu'on refuse de se définir géographiquement, culturellement. Donc, pour moi, la continuité culturelle, elle n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, il n'y aurait pas de guerre sinon. Et ensuite, il faudra dire qu'est-ce qu'on est culturellement, politiquement, économiquement, institutionnellement et partout. Il y a un flou artistique et je pense que c'est pour ça que l'Europe
Merci
est aussi faible aujourd'hui.
Si à tous les quatre, Karim Zeribi, Alexandre Devecchio, Bruno Clermont et Gilles Maintré d'avoir été avec nous pour cette première partie de Punchline. Tout de suite, c'est Face à l'info sur CNews avec l'ami Christine Kelly et la suite de Punchline avec le journal d'Hélène Zelani sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Patrice Boisfer.
Tout pile sur Europe 1, merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline et débat juste après le journal d'Hélène Zelani. Bonsoir ma chère Hélène.
Bonsoir Patrice, bonsoir à tous.
Il fait vraiment trop chaud pour un mois de juin. 37 départements total sont en alerte, 12 sont même en alerte rouge.
Les 3 premières puissances européennes prêtes à accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union, mais aussi prêtes à soutenir Kiev militairement aussi longtemps qu'il le faudra. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur la visite d'Emmanuel Macron et des dirigeants allemands et italiens en Ukraine. À suivre également la SNCF qui va lancer des listes d'attente pour les trains Ouigo complets à la fin du mois. Et puis les toutes premières conclusions des sénateurs sur le chaos du Stade de France il y a 3 semaines. Ils étaient sur place cet après-midi et nous aussi.
Tendance météo, c'est avec vous, Marlène Duret, bonsoir.
Bonsoir Patrice et bonsoir à tous. Vigilance absolue en Vendée, Poitou-Charentes, Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn. Ces 12 départements sont placés en alerte rouge. Alerte orange également dans 25 départements allant du Caire sud-ouest à la Bretagne et en moyenne vallée du Rhône. Comptez 19 à 23 cette nuit, 35 à 40 en journée et on fait le point à la fin du journal. Europe 1.
Hélène, l'image est exceptionnelle. 4 dirigeants européens ensemble à Kiev, venus soutenir le peuple ukrainien.
Oui, Emmanuel Macron, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. 4 hommes pour un président Zelensky en guerre. Ils sont venus montrer leur compréhension et leur soutien.
Oui, absolument, en une démonstration forte de nombreuses images, avec tout d'abord ces poignées de main devant l'impressionnant palais présidentiel de Kiev, en reconnaissance de la légitimité de Volodymyr Zelensky, des poignées de main d'hommes en costume à ce président qui s'affiche, lui, en t-shirt kaki de guerrier. Cela a été l'image également de l'Europe alignée aux côtés de Volodymyr Zelensky lors de la conférence de presse du président roumain pour l'Est à une extrémité aux représentants les plus puissants de l'Europe de l'Ouest, dont Emmanuel Macron, en président en exercice de l'Union européenne. Et puis une démonstration de solidarité avec des propositions concrètes, une invitation au prochain sommet du G7 et ce soutien immédiat à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne.
Tous les 4, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C'est un geste fort rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Emmanuel Macron, qui, avec les autres dirigeants européens, a tenu à aller voir de près les conséquences de cette guerre, Nicolas, avec la visite de la ville d'Irpin ce matin.
Oui, c'était très important pour les Ukrainiens, car autant il y a le ressenti ici que les États-Unis reconnaissent la violence extrême de cette guerre et aident en conséquence le pays, autant il y a l'impression que l'Europe ne mesure pas à sa juste mesure ce qui se passe dans le pays et donc n'aide pas assez. C'est pourquoi il était important pour Kiev de montrer Irpin, cette ville qui a résisté sans faiblir malgré la pression russe, et plus particulièrement ce quartier strictement civil, laminé par les bombardements, et d'entendre une réaction comme celle-ci d'Emmanuel Macron.
Les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne. Et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie. Vous êtes ici à Irpin, sur un site qui a été détruit, où des massacres ont été perpétrés, où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre.
Alors cette visite compte ici, beaucoup de Kieviens l'ont suivi attentivement, mais ceux avec lesquels j'ai parlé finissent toujours par ajouter « ils ont parlé, maintenant il faut faire ».
Nicolas Toneff en direct de Kiev pour Europe 1.
Alors justement Hélène, on a entendu que les Ukrainiens voulaient des actes. En voilà, la France annonce une aide militaire accrue.
Oui, Paris avait déjà livré 12 canons César à l'Ukraine. 6 autres seront également livrés, William Molinier, soit 18 en tout.
Oui, la 55e brigade d'artillerie ukrainienne utilise déjà ce matériel français dans le Donbass, armement très efficace, un canon de 155 mm qui est monté sur un camion, donc très mobile. Il a une portée de 40 km et surtout son missile est précis, sa trajectoire par exemple peut être réorientée une fois tirée. Les contours de cette nouvelle aide ont été calés lors de la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna il y a 10 jours à Kiev. 18 César en 4 mois, c'est un effort important puisque l'armée de terre disposait de 76 unités. Près d'un quart du stock sera donc parti pour l'Ukraine en à peine 4 mois. La France va aussi envoyer un laboratoire mobile d'analyse ADN. Des experts français sont déjà déployés dans le pays pour enquêter sur les crimes de guerre. Le lab ADN, comme l'appellent les gendarmes, permet d'identifier les auteurs et les victimes sur des scènes de catastrophes ou de scènes de crimes complexes. C'est un dispositif unique au monde. Il a été utilisé lors du crash de la Germanwings dans les Alpes en 2015 et lors de l'attentat terroriste de Nice le 14 juillet 2016.
William Molinier. Enfin, la réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette visite du président Macron. Je trouve bien que le président de la République rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, tous sans exception. Fin de citation.
Et l'autre grand titre du jour, c'est évidemment la canicule qui s'est abattue sur la France. 12 départements sont placés en vigilance rouge.
Oui, dans le sud-ouest et sur la façade atlantique, c'est le niveau le plus élevé du plan national canicule. Conséquence, alerte sanitaire et mobilisation maximale des autorités. Victor Pourchet, plusieurs mesures exceptionnelles sont déjà annoncées dans ces départements en rouge, notamment dans les établissements scolaires.
Oui, puisque l'école et le collège ne seront pas obligatoires demain dans ces départements, annonce de l'éducation nationale. Dans le Tarn, certains établissements suspendront leurs cours, comme l'explique le préfet François-Xavier Loche.
On a laissé la latitude aux maires, lorsque les conditions ne permettent pas de faire classe, de fermer les écoles. On avait déjà une dizaine d'écoles de fermées dans le département aujourd'hui. Ça sera sans doute beaucoup plus demain.
Un accueil sera malgré tout assuré. D'autres consignes sont prévues. Vigilance accrue dans les EHPAD. Travail le matin pour les ouvriers des chantiers publics. Il est aussi conseillé aux maires d'annuler les grands événements en extérieur. Et au-delà de ces actions, la population générale aussi doit prendre des mesures. Benoît Elbeau, directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.
Même quand on n'est pas fragile, on peut avoir des problèmes de santé liés à cette chaleur. On ne fait pas d'efforts physiques extérieurs, même quand on est jeune et en bonne santé. C'est l'évanouissement assuré et surtout aussi un message particulier pour les nourrissons. Avoir des vaporisateurs d'eau pour aussi avoir un peu de fraîcheur pour l'enfant. On peut aussi lui faire prendre des bains, mais pas d'eau très froide. Hein. Et bien sûr, ne pas sortir les nourrissons quand il fait très chaud.
Alors, une mobilisation exceptionnelle pour une situation historique. Les températures n'ont pas été aussi élevées à cette période de l'année depuis 1947.
Et puisqu'on parle température caniculaire, Victor, il a fait précisément 40,8 degrés à l'ombre cet après-midi à Argeliers dans l'Aude. Marlène Duret nous le dira, ça va encore grimper demain.
Et pas facile du tout, Hélène, on se met un petit peu dans la peau des 540 000 élèves de première qui passaient le bac français cet après-midi.
4 heures à plancher dans la fournaise, pas évident en effet de se concentrer, surtout dans la région toulousaine où le mercure a atteint les 39. Les élèves du lycée Léon Blum de Villefranche-de-Lauragais n'ont pourtant pas eu le choix. Ils ont dû passer leur examen dans des conditions extrêmes, Benjamin Péter.
Oui, une atmosphère invivable, me disaient certains, après avoir passé cette épreuve aux heures les plus chaudes ici, où la température extérieure avoisinait les 38-39 degrés presque cet après-midi. Lilian a beaucoup souffert.
On est rentré dans la salle, il faisait bien chaud. J'arrivais déjà, je transpirais. La première heure, ils n'ont pas aéré, ils nous ont tout laissé fermer. Il y avait tout le monde qui transpirait, moi j'étais trempé. Après, ils nous ont donné des bouteilles d'eau, tout ça, donc ça allait. Des bouteilles d'eau fraîche. Ils sont venus faire le tour un peu, ils ont le proviseur, il a ouvert les fenêtres, tout ça, donc c'était un peu mieux. Ouais, mais sous cette chaleur, c'était compliqué.
Lola, elle aussi, a passé un moment difficile dans une salle de classe à plus de 35 degrés. Pourtant, ce matin, elle avait choisi de s'habiller léger.
À la base de ce matin, je me suis dit, mets un pantalon et tout, mais au final, je me suis dit, il fait trop chaud, c'est pas grave, on y va comme ça, comme ouais. Si on était en vacances, quoi. Ouais. Et à bout d'un moment donné, j'en pouvais plus, moi non plus. Je transpirais du front, de partout. Même la chaise collée aux cuisses, c'était pas ouf.
Voilà, alors pourtant, cet établissement est le premier lycée de la région à énergie positive, avec panneaux solaires, façades en bois, des arbres et des plantations pour la fraîcheur. Mais ça n'aura pas suffi compte tenu de cette météo extrême. Ils ont eu beaucoup de courage de travailler dans ces conditions, me confiait un enseignant qui les surveillait.
Ah, ça c'est vrai, Benjamin Péter, à Villefranche-de-Lauragais pour Europe 1. Ces élèves de première générale avaient le choix entre le commentaire d'un texte de Sylvie Germain et une dissertation sur des extraits d'Apollinaire, Baudelaire ou Victor Hugo.
On suffoque, on peste contre le réchauffement climatique. Alors, comment essayer de voir le bon côté des choses? Eh bien, sur certaines routes, il est possible de récupérer la chaleur et la recycler plus tard.
C'est en effet un système de géothermie installé sous le bitume qui permet non seulement de refroidir le sol, mais aussi d'utiliser la chaleur récoltée pour chauffer des bâtiments en hiver. Nina Droff est allée voir à quoi ça ressemble au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines.
À l'entrée du péage de l'A10, une route de bitume noir en apparence comme les autres. Mais en dessous, c'est tout un système qui est à l'œuvre, comme l'explique Pierre Montluc, directeur marketing d'Eurovia.
Sous l'enrobé, vous avez comme des serpentins, des tubes, sur 100 mètres de long et 5 mètres de large, donc sur 500 mètres carrés.
Dans ces tubes circule un liquide, similaire à celui qu'on peut trouver dans un radiateur, qui va emmagasiner la chaleur du soleil.
Et là, à partir du moment où on a un fluide chaud, on va enfouir la chaleur via la géothermie.
Un processus qui permet de rafraîchir l'air et de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur.
Comme on va enfouir de la chaleur, on va diminuer la température de notre chaussée. On va baisser d'environ au niveau du sol de 15 degrés. On a besoin de cette fraîcheur, c'est important.
Et une fois enfouie dans la terre, cette chaleur n'est pas perdue, bien au contraire.
L'hiver, comme on aura un gros stockage, on aura boosté ce stockage de chaleur, et bien on va l'utiliser pour chauffer des bâtiments ou déneiger des routes.
Pour l'heure, 7 dispositifs de ce type sont installés en France. 10 autres devraient être mis en place prochainement.
Un reportage de Nina Droff. Et pour clore ce chapitre, notez ce numéro si vous souffrez de la chaleur. Canicule Info Service 0800 06 66 66.
Hélène, vous restez avec nous bien évidemment. Punchline revient dans un instant, une pause. Et on parle de la SNCF qui va lancer des listes d'attente pour cet été sur ses trains Ouigo. A tout de suite.
Europe 1, Punchline, Patrice Boisfert.
19h passées de 12 minutes sur Europe 1, merci encore de votre fidélité. La suite du journal d'Hélène Zenani, la SNCF s'attend, Hélène, à battre des records historiques cet été.
Oui, record de fréquentation grâce à l'engouement pour les vacances en France. Et qui dit train bondé, dit aussi bien des déceptions pour ceux qui n'ont pas trouvé de place. Alors pour la première fois, la SNCF va proposer aux voyageurs de s'inscrire en liste d'attente pour les trains Ouigo complets, Aurélien Fleureau.
Oui, ce sera possible dans 2 semaines. Si vous êtes intéressé par un train précis mais qu'il affiche complet, vous pourrez vous mettre sur liste d'attente et espérer être contacté si un passager renonce à son voyage. D'ailleurs, s'il trouve preneur, ce passager qui a changé d'avis pourra récupérer 80% du prix d'achat, alors que jusqu'ici, les billets Ouigo ne sont pas remboursables. Mode d'emploi avec Stéphane Rappebach, le directeur général.
C'est assez simple, hein. C'est-à-dire qu'un client qui veut se mettre sur la liste d'attente, il ira cliquer... Vous savez, sur le site où on voit le train, il est complet. En dessous, il y aura marqué « m'inscrire à la liste d'attente ». C'est très rapide. On lui affichera aussi à quel rang il est, ou en tout cas, quelles sont ses chances de pouvoir arriver au bout. Hein, évidemment, si on est 200e sur la liste ou si on est premier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dès que la place sera libérée, il recevra un message pour l'inviter à aller valider son billet qu'il a obtenu.
Une option utile pour les passagers et nécessaire pour la SNCF puisqu'environ 10% des places vendues pour des trains Ouigo ne sont au final pas occupées. Teste donc tout l'été et si les premiers retours sont concluants, la compagnie pourrait très bien élargir le dispositif de la start-up Fairline à d'autres trains avec réservation.
Merci Aurélien Fleureau.
Et près de trois semaines après les incidents du Stade de France pour la finale de Ligue des Champions, une délégation de sénateurs était cet après-midi à Saint-Denis pour tenter d'y voir un petit peu plus clair.
Oui, ils ont parcouru le trajet entre le RER et le Stade de France, visité le PC Sécurité, discuté avec les dirigeants du stade. Vous étiez à leur côté, Johan Tritt. Des manquements graves ont été pointés du doigt.
Oui, la mauvaise identification des faux billets, la grève du RERB, un manque de préparation globale, mais aussi une mauvaise gestion de la délinquance autour du stade ce jour-là, mise sous le tapis clairement par la préfecture de police, explique Jean-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat.
Le préfet a clairement dit que son choix était d'abord la gestion des supporters et pas la gestion de la sécurité publique, donc de la délinquance sur le site. C'est un choix qui a été assumé par le préfet de police, mais c'est incontestablement un choix qu'on ne peut pas considérer comme étant un bon choix.
Un dysfonctionnement parmi tant d'autres. La commission continue d'essayer de faire toute la lumière sur cette journée, mais tombe sur un os. Les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été supprimées, ce que ne comprend pas Jean-Noël Buffet.
Il aurait été utile de conserver ces images. Cela dit, rien n'a été fait. Et je redis qu'il était présent dans le centre de contrôle l'ensemble des autorités, y compris politiques. Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit « il faut les conserver, on en a besoin ». Ça, c'est pas pensable.
Et ce qui fait aussi dire à un autre sénateur présent, Laurent Lafont.
Tout cela donne l'impression qu'il n'y a pas de responsable. Et puisqu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable.
Lueur d'espoir, la préfecture de police aurait encore ces images à disposition. La demande pour les récupérer par la commission a été faite. Pour l'instant, restez sans réponse.
Johan Tritt en direct du Stade de France.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal d'Hélène Zélani. La météo, bonsoir ma chère Marlène, Marlène Duré demain. On l'a compris, elle sera caniculaire, les températures s'envolent.
Et oui, la vague de chaleur s'étend un peu plus et s'intensifie à l'ouest. Extension massive de la carte de vigilance, 37 départements sous surveillance, avec une alerte rouge dans 12 départements. La Vendée, tous ceux du Poitou-Charentes, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Tarn. Et on passe à l'orange dans les 25 départements suivants. Morbihan, Ille-et-Vilaine, une partie du centre Val-de-Loire et de l'Auvergne. Sont concernés aussi les Pays de la Loire, le Limousin, le Midi-Pyrénées, l'Aude, la Drôme et l'Ardèche. Les températures resteront élevées cette nuit au sud de la Loire jusqu'au sud-ouest et dans les régions méditerranéennes avec le plus souvent 19 à 23 degrés, voire un petit peu plus 24-25 sur le pourtour du golfe du Lion et la basse vallée du Rhône. Ailleurs, il faudra profiter de la fraîcheur nocturne parce que les thermomètres franchiront rapidement la barre des 30 degrés demain et au plus chaud de l'après-midi. On attend généralement 36 à 39 degrés du sud de Rhône-Alpes à la Provence. En Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, dans le centre, jusqu'au Pays de la Loire et l'Est de la Bretagne. Les 40 degrés pourront être atteints, voire dépassés, notamment dans les départements placés en alerte rouge. Et puis, il fera un petit peu moins chaud sur la pointe bretonne, en Normandie, en Ile-de-France, Picardie, Bourgogne, Centre-Est, 33 à 36 degrés. Et la chaleur sera encore moins forte du Nord-Pas-de-Calais au Grand-Est avec 30 à 33. Tout de même, le tout sous un soleil de plomb. Des records de température seront probablement battus demain et samedi, la journée la plus chaude de l'épisode.
Marlène, Marlène Duré, surtout, soyez extrêmement prudents. Vous restez avec nous, Punchline revient dans un court instant, place au débat. On va revenir bien évidemment sur cette journée historique, cette visite de quatre leaders européens, à commencer par la visite d'Emmanuel Macron à Kiev. A tout de suite.
Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer.
19h passé de 21 minutes, comme promis, place au débat avec Gilles Maintré, qui est ancien diplomate à Moscou, avec Jeannette Bougra. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste. Amine El-Khatmi, essayiste. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Alexandre Chevaux, du service politique d'Europe 1. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. On parle bien sûr de cette visite historique d'Emmanuel Macron, qui était attendu, très attendu même du côté de Kiev. Le président français, qui était, on le rappelle, accompagné de Olaf Scholz, de Mario Draghi, le président roumain, qui lui aussi était de la partie, un quartet européen en Ukraine, en temps de guerre, avec également quelques annonces. On commence avec justement les mots du président Macron.
Avec le président Zelensky, nous avons ainsi évoqué les besoins immédiats dans les domaines humanitaires, économiques et militaires. La France, évidemment, est et restera au rendez-vous pour y répondre. Il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, si ces arrêts additionnels puissent l'être.
Alex Sancho du service politique d'Europe 1, 6 Césars de plus, ça fait 18 sur les 76 que possède la France.
Oui, c'est ça, c'est énorme. Et les canons César, c'est vraiment une pièce maîtresse d'artillerie. C'est produit par un groupe français qui s'appelle Nexter. Ce sont des canons qui sont montés sur des camions, donc qui sont extrêmement mobiles, qui sont très précis. On peut modifier la trajectoire des obus une fois qu'ils ont été tirés. Ça permet de tirer jusqu'à 6 coups par minute et c'est vraiment, enfin, c'est une pièce importante pour l'armée ukrainienne. C'est des pièces voilà, qu'on vend à d'autres pays, à l'Arabie Saoudite, au Danemark, en Thaïlande notamment. Après, ça, très clairement, ça ne va pas changer le cours de la guerre. C'est vraiment une décision politique, un message politique de soutien à Zelensky. Parce que l'armée française, vous l'avez dit, on en a 76, on en a commandé encore 33. Et en fait, on n'a pas...
On a 18 de moins à 5 millions de canons, ça commence à faire pas mal.
C'est ça. Et l'armée française n'a pas non plus énormément de moyens. Donc... par rapport aux USA notamment, qui ont prévu d'apporter 40 milliards à l'Ukraine, c'est vraiment une goutte d'eau, mais c'est une décision politique de soutien à Zelensky et à l'Ukraine. Ça peut faire du dégât, le canon César, hein, parce que l'Arabie Saoudite l'utilise dans le cadre du conflit au Yémen, et ils les ont utilisés à la frontière, et ça a touché des populations civiles au Yémen. D'ailleurs, des enquêtes...
extrêmement mobiles, effectivement.
Très mobiles, ouais. Et ils ont une portée de plus de 42 kilomètres. Alors, je sais que l'Ukraine est grande, mais effectivement, positionnée, ça peut faire du dégât. Donc, effectivement, c'est des armes très lourdes, et donc c'est un geste très fort que fait le président Macron dans cette visite.
C'est un geste fort, avant tout symbolique. C'est vraiment de nature. En tout cas, est-ce que c'est à la hauteur effectivement des annonces et de la visite qu'on annonçait historique, qu'on le rappelle, avec ces quatre leaders européens. Gilles Mintré.
Non, je crois pas du tout que ce soit ça le geste fort. Hein. C'est pas de venir pour apporter six canons. D'ailleurs, il ne serait pas allé à Kiev si c'était uniquement pour annoncer les six canons.
Et la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN.
Voilà. Qui seront tous utiles, très utiles, comme vous venez de le dire, hein, mais qui, évidemment, ne sont pas du tout à la portée de l'événement. Ce qu'il est venu annoncer avec les trois autres, hein, c'est le statut de candidat de l'Ukraine. C'est ça qui est historique. Et dans le fond aussi, c'est pour compenser la faiblesse de notre capacité à fournir des armes à l'Ukraine.
Alors,
faiblesse qui est juste
structurelle.
Hein,
l'appelez de vos voeux, justement. On a cet extrait du président Macron qui parle de cette candidature immédiate de l'Ukraine.
Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou sur l'Ukraine, le président Macron a changé d'avis.
Oui, quand il parle de clarté, c'était précisément ce qui n'était pas clair jusqu'à présent, puisqu'il avait parlé d'une confédération politique européenne, quand vous vous souvenez. En fait, c'était le manque total de soutien qu'il a eu au sein de l'Union européenne sur sa proposition. Il a été lâché à peu près par tout le monde. Ça avait rendu les Ukrainiens furieux. C'était une position qui était en fait politiquement intenable face à ce qu'est la réalité du conflit en Ukraine. Créer une espèce de zone grise ou de seconde zone était impossible. En fait... il y a à la fois de l'idéalisme et du pragmatisme, je trouve, dans cette décision. Il y a bien sûr de l'idéalisme au sens de ce que peut être l'idéal européen. On trace une perspective d'espoir pour les Ukrainiens. On leur indique qu'ils font partie de la famille européenne et concrètement qu'ils vont donc pouvoir être candidats, même si ça va prendre plus de 10 ans et qu'il va falloir faire remplir tous les chapitres. Dieu sait, ça a pris 10 ans pour les Polonais, les Hongrois, il y a dans les années 90. Là, ça va prendre encore plus de temps.
2 ans pour la Finlande.
Bien sûr, mais c'est pas du tout les mêmes économies. Donc précisément, vu ce qu'est l'Ukraine, vu ce qu'elle était avant la guerre et vu ce qui s'est passé depuis, ça va prendre du temps. Mais donc, il y a cette perspective. Mais c'est aussi du pragmatisme. Parce qu'on voit bien que Français, Allemands, Italiens, depuis le début, ont une position qui est différente d'une part des Américains, des Anglais, d'autre part de ce que sont les Polonais, les Pays-Baltes, qui sont maximalistes dans l'idée qu'il faut combattre la Russie jusqu'au dernier souffle. On entend une position intermédiaire qui est de dire qu'il y a un moment, il va bien falloir sortir de cette guerre, il va falloir faire la paix. Les Italiens ont même proposé un plan de paix, ce que n'ont pas fait, peut-être à moi, à mon grand regret, les Français. Et donc, du coup, le fait d'ouvrir cette perspective européenne, c'est aussi pragmatiquement de permettre les compromis qui seront nécessaires pour sortir de la guerre. Parce que vous comprenez bien que les Ukrainiens, après ce qu'ont été ces 170 jours de guerre, après ce qu'ont été les sacrifices, ce qui est aussi l'isolement de Zelensky par rapport aux autres parties en Ukraine. Il va falloir faire accepter des concessions et une fois de plus, il a dit qu'il les soumettrait à référendum, eh bien la perspective européenne, c'est quelque chose qui est de nature à tracer à la fois un espoir et un avenir.
Amine El Khatmi, assez rapidement, s'il vous plaît, cette journée avec ces quatre leaders européens qui se déplacent à Kiev. Prenez votre temps, cher ami. Elle a fait avancer ou pas le schmilblick?
Oui, moi je suis d'accord à la fois avec Jeannette et Gilles. Le matériel, c'est important, oui, parce que c'est une aide pratique et ça va les aider. D'ailleurs, on voit bien que c'est quand même pas rien, ne serait-ce qu'en voyant la réaction des Russes par la voix de Medvedev, qui, par un tweet quand même à la fois ironique mais assez violent quand même, montre qu'il y a quand même de l'agacement à Moscou. Mais
les Français d'amateurs de grenouilles, les Italiens d'amateurs de pâtes,
disant que tant que ça continuera comme ça, il y aura pas de paix. En gros, c'est ce que disait ce message. Mais c'est vrai que le symbole fort de la journée, c'est l'évolution de ce statut de candidat. Et Gilles l'a très bien dit, ça ne veut pas dire... Parce qu'effectivement, la Finlande, vous avez eu raison de rappeler que ça a été plus rapide, mais parce que la Finlande était déjà correspondait aux critères attendus par les Européens d'un point de vue économique, d'un point de vue de la démocratie, des droits humains, des droits politiques, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas de l'Ukraine, qui a des adaptations à faire et qui prendront plus que 2 ou 3 ans.
Et vous restez avec moi tous les quatre, on continue le débat dans un instant sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Patrice Boisfer.
Allez, de retour sur le plateau de Punchline, toujours avec Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou, Jeannette Bougrabe, qui est essayiste, Amine El Khatmi, essayiste, et Alexandre Chauveau, qui est du service politique d'Europe 1. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire. Les mots cet après-midi du président français Emmanuel Macron, qui s'est rendu, et c'est historique, du côté de Kiev. Le président Macron, qui était avec 3 autres homologues européens, du côté de Irpin ce matin, je vous propose de l'écouter.
Vous êtes ici à Irpin sur un site qui a été détruit où en effet l'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre sur lesquels nous coopérons d'ailleurs très fortement. Et je veux remercier l'ensemble des gendarmes, experts, magistrats français qui ont été déployés dès les premiers jours aux côtés des experts. On a tous vu ces images d'une ville dévastée qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que, entre autres, les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous
êtes et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie.
Voilà, le président Macron qui a été confronté à la réalité ce matin en banlieue de Kiev à Irpin. Jeannette Bougrabe, essayiste, est-ce que justement le président Macron est confronté à cette réalité, est en train de changer son champ lexical ou
non, changer d'avis ou pas trouvé, forcément. Enfin, je l'ai trouvé assez juste dans son... Je l'ai trouvé les critiques à son endroit, et pourtant je ne suis jamais avare de critiques à son endroit.
Un peu dur.
Très juste sur sa manière d'avouer... C'est pas, il n'a pas joué l'équilibriste. Il a raison de dire qu'à un moment ou à un autre, et ce n'est pas Gilles Mintré qui va me contredire, qu'il faudra bien discuter avec la Russie. Donc, de même sur la décision historique, certes, de candidature de l'Ukraine, elle était attendue, cette décision. On faisait croire à un suspense, elle est attendue, elle est importante.
C'est
parce
la partie,
que,
quand il dit il ne faut pas humilier les Russes, c'est ça qui n'a pas été très bien pris de la part de
la seule chose, c'est qu'on sait très bien, et sans les comparaisons n'est pas raison, on sait très bien les différentes guerres que là, ce continent a connues, que l'humiliation dans la défaite, ça peut conduire au pire. Voilà. Et donc, du coup, ce n'est pas ce qu'il a dit, d'autres l'ont dit, Kissinger l'a dit à Davos, Noam Chomsky l'a dit aux États-Unis. Si on veut, à un moment ou à un autre, et justement, la question de la candidature à l'Union européenne montrera que l'Union européenne est derrière l'Ukraine, mais qu'il faut que la guerre cesse, il faut que des civils arrêtent de mourir. On peut avoir tous les égos possibles, estimer que seule la victoire militaire est une victoire satisfaisante, mais aujourd'hui, ceux qui meurent quand c'est des civils, c'est inacceptable. Donc, il faut que ça s'arrête. Et donc, et là-dessus, moi, je pense que le président a raison de dire il faut dialoguer, il est courageux parce qu'il livre aussi des armes, il y est allé, c'est pas la première fois qu'il va à Kiev, et ça, là-dessus, on peut pas lui reprocher.
Amine El Khatmi, essayiste, l'émotion est-elle en train de prendre le pas dans ce conflit ?
Non, l'émotion, non. Je crois que l'émotion, elle était surtout au début, parce que la guerre revenait en Europe et que ça a évidemment choqué, à juste titre, beaucoup de concitoyens. Mais je suis d'accord par rapport à ce que disait Jeannette. Quand on veut faire la paix, il faut être deux. Il faut mettre. Vous pouvez pas d'un côté vouloir mettre les gens autour de la table pour négocier et de l'autre affirmer vouloir l'humiliation d'une des deux parties prenantes au conflit. Et on a des exemples très nombreux dans l'histoire récente ou plus ancienne de conflits où, y compris dans les moments les plus tendus, dans les moments les plus durs, lorsque la violence était la plus grande, il y avait quelque part des gens des deux camps qui, autour d'une table, essayaient de dessiner ce qui pourrait être une issue de sortie. Le pire dans une guerre, c'est quand les gens ne se parlent plus. Et quand les seules choses qui parlent, ce sont des armes. Ça, c'est la situation la plus terrible, parce que c'est une situation qui est sans issue.
Les Russes sont en train de gagner du terrain, là, peut-être.
Oui. Non, mais bien sûr. Mais,
et donc, du coup,
mais ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir en même temps de discussion, et ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas refuser l'humiliation des Russes. On peut dire que les Russes ont été les premiers à agresser les Ukrainiens. On peut dire qu'ils ont commis des exactions. Il y a eu des débats. On a eu cette discussion il y a deux jours sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Bref, on sait qu'ils ont un certain nombre de soldats russes et de régiments russes ont été sont responsables de crimes absolument monstrueux. Donc ça, c'est établi. Ce sont des faits. Mais vouloir l'humiliation de la Russie, c'est vouloir finalement que ce conflit ne soit jamais réglé.
Alexandre Chauveau.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, Emmanuel Macron, il a pas changé de position. Il dit toujours la même chose. Il dit d'un côté soutien inconditionnel à l'Ukraine, avec toutes les mesures qu'on a énoncées, livraison des canons César, le laboratoire mobile d'ADN, la demande de déblocage des ports ukrainiens, notamment celui d'Odessa.
Et de l'autre côté, du blocus, ouais.
Ouais, exactement. Et de l'autre côté, il est obsédé par l'idée de ne pas humilier la Russie. On sait que la confiance avait été un petit peu écornée avec Zelensky au moment où il avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Là, il l'a redit tout à l'heure. Il a dit à la fin, il faudra que ces discussions aient lieu. La France a voulu humilier l'Allemagne en 1918. Et à la fin de cette guerre, il ne faudra pas faire les erreurs que d'autres ont fait dans le passé. Il est vraiment obsédé par cette idée-là.
J'y maintrai cet appel à la levée du blocus en mer Noire. On pense notamment effectivement à la situation à Odessa. C'est un appel qui peut avoir un certain écho en Russie ou pas du tout.
Mais il y a peut-être l'espoir d'avoir une négociation spécifique sur ce sujet-là, puisqu'il s'est entretenu de cette question-là en direct avec Vladimir Poutine. Ils en ont reparlé avec Volodymyr Zelensky. De même qu'il y avait eu des négociations sur les corridors humanitaires qui avaient mis beaucoup trop longtemps à se concrétiser, mais qui avaient fini, grâce à Antonio Guterres, à se concrétiser. Il y a peut-être un chemin de discussion. Mais c'est vrai que ce n'est qu'un aspect. Je pense que la venue des quatre dirigeants européens, elle va vers la recherche d'une sortie du conflit beaucoup plus profonde. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, cette candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est le pas le plus important qu'on ait fait vers la paix depuis le début du conflit, parce que c'est ça qui va permettre à nouveau d'accepter les moyens d'un règlement. Maintenant, moi, je noterai juste que Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup avoir tort. Et donc, il a dit qu'il ne faut pas humilier une première fois. Il a dit « Ah, ça a créé plein de remous ». Il l'a redit, ça a créé plein de remous. Et là, il vient à Kiev. Et alors, il insiste, parce qu'il veut dire « Non, non, mais vous m'avez mal compris. Bon, moi, il aurait peut-être pu choisir d'autres mots. Bien sûr, sur le fond, on est d'accord. Il s'agit de trouver une sortie qui permette... Les Russes ne viendront à un règlement du conflit que si ça correspond aussi, en partie, à l'équilibre des forces sur le terrain. Donc c'est ça quand on dit qu'il ne faut pas humilier.
Sur la question d'Odessa, la seule chose, c'est qu'on a l'impression que ce conflit est un conflit entre l'Occident et la Russie. Mais il y a quelques jours, Macky Sall, et je le répète parce que les gens oublient en fait l'enjeu en termes de famine dans le monde, est allé voir Vladimir Poutine à Sotchi, et Vladimir Poutine s'est engagé à laisser sortir en tout cas les bateaux avec le blé, en disant qu'il ne s'opposerait pas à la sortie du blé ukrainien. La seule chose, c'est qu'il a dit que les ports étaient remplis de mines. Voilà. Et donc, il y a deux versions. En tout cas, moi, je pense que c'est essentiel, en tout cas, que les Européens, parce que l'une des problématiques, c'est que la banque qui permet, en tout cas, de pouvoir acheter, en tout cas, ces matières premières qui sont spécifiques, en fait, sont sorties du système SWIFT, du système international. Oui. Et donc, du coup, c'est les sanctions aussi internationales qu'on a appliquées qui conduisent, en fait, certains pays africains qui ont, je parle africain, mais pas uniquement, qui ont besoin de ce blé, qui ont besoin d'engrais, qui se trouvent pénalisés.
Cet appel à Amine El-Khatmi à lever le blocus en mer Noire à Odessa, il peut être entendu par les Russes ?
Ils l'ont accepté. Macky Sall a dit oui, donc je comprends. Tu sais qu'on a du mal à entendre l'Afrique, mais il faut l'entendre. Pardonnez-moi. Non, pas du tout. C'est que je trouve qu'on est des pays, on a des pays riches, on n'a pas de problème alimentaire, on n'a pas de problème de fourniture, et donc on peut se permettre de faire ces sanctions-là pendant que le reste de l'humanité est en train de crever. Donc c'est ça c'est ce coup de sang que j'ai, voilà. Et c'est ça, moi, qui me met en colère. Et donc on peut se passer, par exemple, du gaz russe, parce qu'effectivement, on est en train de négocier avec les Émiratis.
Israël.
Voilà. Donc est allé en Israël. Et donc, mais tous les autres, on s'en moque. Voilà. C'est le triomphe de l'égoïsme et des pays riches. Voilà.
C'est une des leçons justement de cette guerre en Ukraine.
Oui, oui, on peut être sensible à la colère, le mot est un peu fort, mais à ce que vient de dire Jeannette, c'est vrai qu'on a un comportement de riche. On dit qu'on veut réduire notre dépendance énergétique de la Russie. On sait très bien qu'on peut la réduire parce qu'on a d'autres partenaires avec qui négocier. Et il y a eu effectivement hier avec Israël un accord historique. Israël va fournir l'Europe en gaz, mais il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre. On sait qu'il va y avoir il y a des pénuries alimentaires, il va y avoir des crises alimentaires très importantes dans un certain nombre de pays africains. J'ai oublié le chiffre, pardon, mais c'est l'ONU qui estimait à plusieurs dizaines de millions de personnes qui pourraient être atteintes de famine directement à cause des conséquences de la crise en Ukraine. Alors oui, on a tendance à regarder les victimes directes de la crise qui sont en Ukraine, et parce que c'est normal et parce qu'on est tous touchés, mais on a des victimes qui ne sont pas victimes de bombes, qui ne sont pas victimes, qui ne fuient pas leur ville et qui ne sont pas des réfugiés directs, qui sont restés dans leur pays, qui sont très loin de Kiev et de l'Ukraine, mais qui sont des victimes aussi de cette crise. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu, pour le moins, les oublier depuis le début.
Allez, vous restez avec nous tous les quatre, bien évidemment, la suite du débat, on parlera de l'Ukraine. Allez, rapidement, un mot d'éducation dans un instant, effectivement, avec le nouveau ministre d'éducation, Pap Ndiaye. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Patrice Boisfert.
19h, passé de 46 minutes, la dernière partie des débats de Punchline, toujours avec Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou, Jeannette Bougrabe qui est essayiste, Amine El-Khatmi essayiste et Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Je sais que ça vous tenait à cœur, ma chère Jeannette Bougrabe, effectivement.
L'école, bien sûr, c'était
sujet de l'école, niveau en baisse, pénurie d'enseignants, atteinte à la laïcité. Il faut bien évidemment se porter au chevet de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs en une de
Marianne.
Marianne, l'école, titre le magazine est le seul sujet. Voilà ce que dit le magazine aujourd'hui.
Exactement.
Avec forcément cette interview de Pap Ndiaye.
Et donc, mais en même temps, c'est le seul sujet qui est absent en ce moment des radars, en tout cas du gouvernement. Aucune annonce n'est faite. Et la seule annonce qui a été faite ces derniers jours, c'est de dire, comme il va faire trop chaud, les enfants vont pouvoir rester à la maison. Donc c'est quand même une espèce de paradoxe, alors même qu'on s'attendait à des annonces très fortes, que la nomination de Pap Ndiaye était considérée comme un symbole.
Vous dites que c'est un ministre trop muet, pour le moment ?
Pour le moment, extrêmement prudent, parce que même sur les signes religieux, la montée des signes religieux, il a décidé de faire en réalité une commission pour analyser et voir quelle est la réalité.
Bon, l'étendue. Ouais.
Mais je pense que le mal-être des enseignants est tel qu'on s'attendait à des annonces très fortes. Le niveau n'est pas bon. Là, en ce moment, les élèves passent le bac. On l'oublie, c'est ouais. Pratiquement 800 000.
Avec la canicule.
Mais ce n'est pas grave, c'est le plus important, c'est qu'ils réussissent. Voilà. On parle de Parcoursup, et d'ailleurs c'est un des sujets qui revient dans cette campagne. Et on a un ministre qui s'exprime très peu, qui fait des déplacements, et pourtant, je pense que c'est l'un des sujets qui faisait la force de cette République, c'est l'un des sujets qui permettait de faire fonctionner l'ascenseur social. Et quand l'école va mal, c'est toute la société qui va mal.
Elle va mal et on a l'impression que le sentiment, Amine El-Khatmi essayiste, que personne n'en parle. On a quand même une élection, un deuxième tour des élections législatives, ce sera dimanche prochain. J'ai l'impression que l'école, c'est peut-être le grand absent.
Mais parce qu'il y a eu des thèmes de campagne.
Pas vraiment.
Parce qu'il y a eu une campagne, il n'y a pas eu de campagne. Donc on peut dire, on n'a pas parlé d'école, mais on n'a pas parlé de culture, pas parlé d'économie, pas parlé, enfin on a parlé de rien. Ça s'est réduit à un match.
Un peu de pouvoir d'achat quand même.
Et retraite.
Je parle des présidences. Là, je parle des législatives. On a une campagne des législatives qui se réduit à M. Mélenchon qui vise un poste qu'il n'aura jamais et en face, un début de panique dans la majorité sur aura-t-on les 289 députés nécessaires à la majorité. Mais on n'en a pas parlé pendant la présidentielle. Alors, à chaque fois, il y a une excuse. Là, on nous a dit c'est la guerre en Ukraine qui a tout écrasé. Et effectivement, la guerre en Ukraine a tout écrasé. Et la dernière fois, alors, c'était les chaussettes, les costumes, les cravates de Monsieur Fillon, donc on n'a pas parlé d'éducation. Et la fois d'avant, on n'en a pas parlé. Donc c'est un sujet dont on ne parle pas. Et c'est pourtant le sujet majeur dont dépendent tant d'autres sujets autour. Parce que si on règle l'éducation, on forme des gens, donc ils ont du travail. Donc on règle en partie la question du pouvoir d'achat. Donc on règle en partie la question des quartiers politiques de la ville. Parce qu'évidemment, on sait que le taux d'échec dans ces quartiers QPV est, malgré des moyens, les REP plus, des moyens importants, le dédoublement des classes jusqu'au CE1, on sait qu'il y a un échec scolaire plus important. Et qui dit échec scolaire dit pour certains de ceux qui échouent délinquance et parcours de multirécidivisme. Donc, si vous voulez, où que je tourne mon regard sur n'importe quel sujet, il y a un moment, un lien possible avec l'école. Ah ben, on n'en parle pas.
Et on n'en parle pas et avec un tout nouveau dommage. Ministre. Effectivement, pression maximale, Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1 sur les épaules de ce nouveau ministre, Pap Ndiaye. Un ministre trop muet.
Oui, je rebondis sur ce que disait Amine. C'est vrai que l'école, ça concentre vraiment tous les problèmes. Et c'est un thème qui aurait pu être préempté. Je pense à une candidate comme Valérie Pécresse, par exemple, pendant la campagne. Ça concentre les problèmes d'autorité, les conditions salariales des professeurs, les conditions de travail, tout simplement. Les questions d'autorité. Récemment, on a parlé de l'entrisme de l'islam. Il y a eu des papiers dans l'Opinion et dans le Figaro. Sur Pap Ndiaye.
Une tenue islamique, oui, tout à fait.
Exactement. Sur Pap Ndiaye, faut pas oublier qu'on est en période de réserve en ce moment et qu'ils ont un devoir.
Sur la question du point d'indice de la fonction publique, de ces jeunes profs qui sortent à 1700 euros, qui peuvent pas se loger, de la question du. On a combien de rapports, combien de commissions on a réunies? La seule chose, c'est que là, on n'est pas une question de réserve, c'est qu'un ministre est là pour mener une politique. Et donc, je pense qu'il aurait pu faire des annonces, il aurait pu. Et pour le moment,
L'instant, il est tenu de
donner quelques signaux.
De ne pas en faire.
Oui, Gilles Mintré.
Non, je suis d'accord, le débat n'a pas eu lieu, parce qu'il y a un débat profond entre les tenants d'une beaucoup plus grande autonomie. Des écoles, vous savez, c'était la proposition de Valérie Pécresse. Enfin, non, mais de dire qu'on a fait l'autonomie des universités, il faut faire demain l'autonomie des écoles pour laisser les directeurs d'école gérer, recruter innover sur un certain nombre de solutions. Et puis, de l'autre côté, le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est un programme, au contraire, extrêmement national, renforcement, disons, d'une espèce de... d'une cohésion éducative nationale, avec ce que ça veut dire aussi de revalorisation de salaire des professeurs, et là je pense qu'il touche un point juste. Donc il y a un débat, il y a une discussion là-dessus, et c'est vrai que Emmanuel Macron, comme de toute façon il n'y a pas eu de débat pendant la présidentielle ni la législative, n'a pas dit grand-chose. Il a quand même fait son premier déplacement après le gouvernement à Marseille avec Pap Ndiaye dans une école pour montrer qu'il pouvait y avoir de l'expérimentation, donc c'était intéressant, mais... Voilà, rien d'autre, rien de plus. Oui, je suis d'accord, c'était un élément comme ça. Maintenant, peut-être, attendons de juger sur les actes, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas très bien.
La situation à Marseille est tellement difficile sur un certain nombre de plans, et notamment sur les questions de délinquance, sur les questions de pauvreté, sur la question de politique de la ville. Marseille, si moi, je n'aurais pas été voir une école pour me montrer dans une école primaire, j'aurais peut-être été voir ce qu'était l'initiative de l'Europe, à savoir l'école de la deuxième chance, qui permet à des jeunes qui sont en situation de décrochage, qui avaient été mis notamment en place par Edith Cresson, pour voir en fait comment ça marche. Mais si c'est à chaque fois pour organiser un déplacement où tout est parfait, où tout est nickel, où on montre cette solidarité, c'est pas acceptable de dire il faut aller là où il y a des problèmes, il faut pas aller uniquement pour faire des photos et des images pour les caméras et le journal de 20h.
Et justement, quand on va à Marseille, c'est pas là où il y a des problèmes ?
Non, mais non, parce que là, il n'est pas allé dans les quartiers difficiles où vous avez des checkpoints, toutes les tenues.
Non, alors, juste à sa... À sa
à sa décharge.
Je veux pas faire le macroniste que je ne suis pas, mais il y a quand même eu un plan exceptionnel pour les 400 écoles de Marseille, plan qui a été voté au Parlement, ce qui à mon avis est assez inédit, que le Parlement vote un plan spécifique pour les écoles d'une ville, parce que la réalité c'est que lorsque Benoît Payan et Madame Rubirola juste avant lui sont arrivés et ont gagné la ville après
après Godin, ils étaient en situation de quasi-faillite. Mmh. Et il y a même une menace qui planait les premiers mois sur une mise sous tutelle par le préfet. Donc ça aurait voulu dire concrètement que le préfet aurait débranché les élus et aurait géré la ville le temps nécessaire pour remettre les choses à flot. Il y a de mémoire 400 écoles et elles ont fait l'objet d'un plan très important de la part du gouvernement, ce qui s'apparentait à une mise sous tutelle en réalité, parce que là c'est pas le préfet qui l'a fait, mais c'est le président de la République lui-même qui est arrivé. Le gouvernement a fait un audit et ils ont mené des programmes de rénovation. Moi, j'ai des collègues enseignants à Marseille qui m'expliquaient que l'automne notamment, il pleuvait, il y avait des fuites d'eau, ils devaient sortir des bassines dans les classes.
Mais les établissements scolaires, parce que c'est la complexité...
C'est la compétence de la commune.
La complexité du système français, c'est qu'effectivement, les enseignants, le programme, c'est l'État. C'est l'État. Et les bâtiments,
c'est les communes.
Ça dépend des communes pour les écoles primaires, les collèges, le département, et les lycées, les régions. Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle la simplification voudrait effectivement que tout soit géré, soit par les communes, comme dans les pays finlandais où ça marche, puisqu'ils ont été premiers. Vous avez tout est géré par la commune qui recrute et qui recrute aussi les enseignants. Voilà.
Rapidement, le jeu doit-il rester ludique? C'était l'un des thèmes hier, je crois, pour les.
Qu'est-ce que ça veut dire ludique?
Professionnel, ami et ennemi.
Ben oui,
mais en vrai. On rigole, mais...
Là, on en rigole,
mais... On en est là aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas réussi à comprendre.
À trouver le mot ludique, vous savez ce que j'ai trouvé?
Le jeu doit-il rester ludique? Ils ont bloqué sur le ludique.
Ah bon, bah écoutez, bah voyez.
Ils ne savaient pas ce que voulait dire ludique. Mais Patrice, le plus étonnant, c'est pas... Alors si, évidemment, on peut se désoler de la baisse de niveau, parce que franchement, ludique... Bon, on aurait mis un mot en latin ou on aurait mis, je sais pas moi, scabreux. Alors, virus scabreux, c'est un mot compliqué. Bon, ludique, c'est quand même un mot... Bon, mais ce qui m'a étonné, ce sont des réactions d'enseignants sur Twitter qui n'ont pas se désolé de la baisse du niveau des élèves, mais vous me voyez venir, qui disaient... Bah quand même, on n'aurait pas dû mettre ce mot-là, c'est un peu compliqué. Et donc, on avait des enseignants qui trouvaient que finalement... On y était allé un peu fort avec ce mot ludique que on aurait dû mettre un mot un petit peu plus simple. Il y en a même un qui a dit on aurait dû mettre une petite étoile et écrire amusant en dessous pour faire comprendre ce que ça voulait dire.
Astérix.
Voilà, une astérix.
Merci à tous les quatre.
Merci
Gilles Mantré, Jeannette Bougra, Bamille Katmi, Alexandre Chauveau d'Europe 1. Tout de suite, c'est Verven Underground avec Mouloud Achour.